Le symptôme est défini comme suit. Premièrement, phénomène, caractère perceptible ou observable lié à un état, une maladie qu'il permet de déceler, dont il est le signe. Deuxièmement, ce qui manifeste, révèle ou permet de prévoir, un état, une évolution. C'est exactement la définition que je m'en fais au point de vue spirituel. Les symptômes physiques, psychologiques, émotionnels et même relationnels nous permettent de déceler un état intérieur malade. Bienvenue dans Hypnoconscience. Apprendre à entendre ce que me disent mes symptômes a été le plus gros tremplin pour mon développement personnel et spirituel. En plus, bien sûr, de me libérer des souffrances qu'ils me causaient. Je te raconte ça dans un instant. Comme dans la définition que je vous ai donnée au départ, le symptôme, en fait, nous permet de déceler. C'est-à-dire que le symptôme nous parle. Si tu as écouté mes premiers épisodes au départ où je parle de comment j'ai résolu mes douleurs chroniques, 30 ans de douleurs chroniques, tu sais de quoi je parle quand je te parle d'entendre un symptôme. Ce que j'entends par symptôme, c'est tout ce qui est douleur chronique, maladie chronique. Bien sûr, je mets l'accent sur chronique parce que si tu te casses un bras en faisant du ski, on s'entend qu'il n'y a pas de risque de psychosomatique derrière ça. Mais j'entends aussi tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire émotionnel récurrent, une tristesse qui perdure tout le temps, une anxiété qui est là en permanence, une peur de quelque chose, peut-être le sentiment constant d'être coupable. J'entends aussi par là tout ce qui est schéma relationnel. On rencontre toujours le même type de personne ou nos relations finissent toujours un peu de la même façon ou on vit toujours un peu soit de la violence ou de la manipulation. Tout ça cache quelque chose. C'est ce que Peter Levine appelle une remise en acte. Et pour moi, ce sont des symptômes qui nous parlent de quelque chose. On en entend parler, souvent on le sait si on veut mentalement. Moi personnellement, je connaissais déjà des sites et des livres comme le Grand Dictionnaire des malaises et maladies qui pouvaient m'expliquer ce que mes symptômes de douleur lombaire pouvaient vouloir dire. Mais le vivre réellement dans notre corps, c'est-à-dire l'expérimenter et se rendre compte c'est quoi exactement pour nous, c'est pratiquement la manifestation d'un miracle pour moi une fois que ça part. Si vous connaissez un peu mon histoire, je l'ai raconté, comment j'ai réglé ma problématique de nerf sciatique. Le nerf sciatique, ma douleur, a disparu en une nuit, alors qu'elle perdurait depuis un an. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut paraître parfois miraculeux. Et d'autres fois, ça peut être un petit peu plus long. De toute façon, bref, c'est important d'abord et avant tout de consulter médecins et autres spécialistes lorsqu'on a des problématiques chroniques, que ce soit d'ordre, par exemple, d'anxiété généralisée ou de douleur ou maladie chronique. Ça, je veux dire, on se trompe pas, là. C'est certain qu'on doit consulter pour avoir une lecture réelle par un professionnel de la santé. Parce que oui, des fois, ça peut être purement physique ou l'aide extérieure va nous aider. Moi, je travaille vraiment d'un point de vue holistique, c'est-à-dire qu'on travaille tous les aspects possibles. Parce que pour moi, tout ce qui est chronique, particulièrement au niveau du physique, là, c'est soit une cause alimentaire, soit une cause psychosomatique. J'ai fait un épisode là-dessus, en quelque sorte, où j'ai appelé ça « enlever au lieu d'ajouter ». Qui explique comment quand on enlève des choses de notre alimentation qui peuvent nous nuire, qui peuvent créer de l'inflammation, qui peuvent être pour nous une forme d'intolérance, même si c'est pas connu, ça peut régler beaucoup de choses. Alors qu'habituellement, dans le domaine de la santé, que ce soit même au niveau de la médecine, ou même des médecines alternatives naturelles, on va avoir tendance à nous conseiller d'ajouter des choses. Prends telle pilule, prends telle tisane, prends telle poudre, t'as des problèmes d'intestin, prends telle affaire. Alors que pour moi, de mon expérience de vie du domaine, c'est pas ce qu'on ajoute qui est important, c'est d'abord et avant tout ce qu'on enlève. Mais ça, c'est l'épisode 37. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller l'écouter. Bon, non, c'est Pascal Brousseau. Je te remercie énormément d'être là aujourd'hui pour écouter cet épisode-là qui est au centre de ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire comprendre, entendre nos symptômes pour arriver à combler les besoins qui sont derrière. Parce que pour moi, tout symptôme est un messager qui vient nous parler qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé, qu'il y a quelque chose à régler. Je vais te donner quelques exemples au cours de cet épisode-là de ce que j'ai pu voir derrière certains symptômes. Mais dis-toi que c'est toujours un message qui t'est destiné à toi et qu'il ne faut pas généraliser, un. Et de deux, que savoir ne suffit pas. Il faut vraiment y aller par soi-même, plonger dans ces symptômes-là, les entendre pour arriver à combler ce qu'il peut avoir derrière. Donc, si je reprends un petit peu rapidement au niveau des douleurs chroniques, ben, comme je disais, moi j'ai plusieurs épisodes que j'ai fait là-dessus au début des podcasts. Qui étaient des douleurs du bas du dos, particulièrement au niveau lombaire. Il y avait aussi le sciatique, il y avait aussi des tensions au niveau du sacrum, au niveau des fesses. Et j'ai découvert à travers tout ça qu'il y avait des causes différentes. Ça a commencé, comme je l'ai raconté, avec un souvenir qui a émergé lorsque j'observais en conscience le bas de mon dos. Un trauma, en fait, qui est arrivé lorsque j'avais environ 4 ans. Qui était un conflit, une chicane qui se passait entre ma mère et son conjoint et qui m'a en quelque sorte traumatisé. J'ai eu peur, une peur figement. Et lorsque j'ai travaillé ce souvenir traumatique-là, ben, progressivement, en 3 jours, 50% de mes douleurs au dos sont parties comme par magie alors que je les traînais depuis 30 ans. Bien sûr, tout ne pouvait pas partir en même temps. Il faut comprendre que ce trauma-là a dû créer des tensions, des désalignements qui ont créé au fil de ces 30 années-là ben, des problématiques, c'est-à-dire des hernies, de l'arthrose. Comme je l'ai dit, j'ai passé un IRM à peine 2 semaines avant de trouver ce souvenir-là. Et je veux dire, j'étais magané du bas du dos, donc toute la douleur ne pouvait pas partir. Mais je crois aussi que le corps se reconstruit. Et si je regarde aujourd'hui, ben, j'ai eu raison de croire ça parce que oui, j'ai quand même une petite faiblesse au dos si je fais beaucoup d'activités ou des choses comme ça, mais ça va vraiment mieux et je n'ai plus de douleur chronique. Je parlais de la douleur du sciatique aussi dans un épisode qui était particulièrement miraculeux où à partir d'une crise d'anxiété, j'ai observé en conscience cette crise d'anxiété-là et les informations qui me sont montées m'ont donné sous forme d'impression, d'intuition, ce que vivait l'enfant intérieur en moi et de quoi il avait peur. Donc, j'ai simplement comblé ce besoin-là avec mon bagage en hypnose et auto-hypnose. Et à mon réveil le matin, il restait à peu près 10% du douleur de la sciatique qui est disparu totalement en après-midi et qui n'est jamais revenu. Maintenant, est-ce que ça peut être comme ça pour tout le monde? J'en ai aucune idée. Je pense que derrière chaque symptôme, il y a une histoire qui est très personnelle à la personne. Mais écoute, on ne perd à rien à essayer. Peut-être que ça peut être plus long qu'une journée. Mais dans mon cas, ça a disparu littéralement, ce qui est vraiment venu mettre un saut final sur vraiment la conviction que j'avais par rapport à ce que notre corps réagit à nos pensées, nos émotions, nos traumas et tout ce qui est là à l'intérieur de nous. Puis pour moi, c'est une évidence. Je donne toujours, si vous l'avez peut-être entendu dans d'autres épisodes, cet exemple-là qui peut être un petit peu simpliste. Mais si une pensée coquine de quelques secondes crée des réactions physiques dans ton pantalon, imagine ce qu'une émotion, une pensée, un trauma négatif sur des mois, des années peut faire à ton corps. Pour moi, c'est une évidence. Ce que j'ai vu aussi au niveau des maladies, il n'y a pas que des douleurs, j'ai vu dans mon expérience certaines maladies chroniques comme l'eczéma disparaître. Dans mon cas personnellement, mon eczéma a disparu lorsque j'ai enlevé certains produits laitiers, particulièrement le yogourt dans ma vie. Mais j'ai eu des clientes à qui j'ai dit ça, d'enlever des choses dans leur alimentation et qui m'ont dit « Écoute, j'ai déjà tout fait ça, je veux voir maintenant au niveau psychosomatique. Et effectivement, je me rappelle d'une cliente qui avait de l'eczéma. Et puis, ce qui a émergé suite à ça, en discutant avec elle, c'est une situation dans sa vie où elle n'était pas alignée. C'est-à-dire que son cœur disait quelque chose, mais sa tête disait autre chose. Donc, elle n'était pas vraiment bien dans tout ça. Et lorsqu'elle a réglé cette situation-là, qu'elle a pris une décision avec sa tête et qu'elle a tassé le reste, qui était, on dira, une relation mal placée ou une relation toxique, ben l'eczéma s'est mis à disparaître. Et là, on ne parle pas d'une petite problématique de rien, on parle d'un eczéma qui était suivi par un médecin, elle prenait de la médication très forte. Cette personne-là m'avait même confié penser au suicide parce qu'elle n'arrivait plus à prendre sa douche, elle n'arrivait plus à rien faire, tellement la peau lui brûlait. Et en l'espace de 2-3 semaines, elle a vu une grosse différence au niveau de sa peau et au bout de 3 mois, il ne restait absolument pas d'eczéma et elle n'est pas revenue. J'ai aussi un cas d'une jeune fille, Coralie, qui m'a donné sur Facebook une entrevue 3 ans après nos rencontres. Elle souffrait, elle, de dermatomyosite, donc une maladie auto-immune, dont les médecins disaient que ça allait être chronique, voire, je veux dire, dégénératif, dans le sens où que, éventuellement, ben, elle serait peut-être même en chaise roulante. Qu'est-ce que ça créait? C'était une forme d'arthrite juvénile. Donc, douleur aux articulations qui se manifestait aussi au niveau de la peau. Et on a trouvé des émotions derrière ça. Elle l'a travaillé. Est-ce qu'elle a confié 3 ans après, parce que c'est arrivé lorsqu'elle avait 15 ans, ce qu'elle a confié à 18 ans, c'est que lorsqu'elle retombait dans ces émotions-là spécifiques, dans ce pattern-là, les rougeurs recommençaient à apparaître sur ses doigts. Donc, on pouvait voir que la maladie était toujours comme présente ou latente. Mais il reste qu'en travaillant ces émotions-là, elle est passée de 8 sur 10 de douleur dans toutes ses articulations à 1 sur 10 dans les genoux occasionnellement lorsqu'elle faisait du sport. Donc, on parle d'une amélioration assez marquée. Et je trouve ça... extrêmement dommage dans notre société qu'on ne prenne pas cette avenue-là plus au sérieux. D'abord parce que je pense qu'on est dans une société à l'idéologie matérialiste. C'est, quand j'entends par matérialiste, c'est-à-dire non pas que les gens achètent du matériel, bien que c'est le cas, mais plus que notre pensée est « nous ne sommes qu'un corps physique ». C'est la pensée globale, je dirais, de la médecine moderne actuelle. Donc, nous ne sommes qu'un corps physique, nous ne sommes que cellules et les maladies se développent un peu par hasard, par malchance. Alors que lorsqu'on comprend l'aspect un petit peu plus psychosomatique, ben on prend responsabilité de ce qui nous arrive. On ne le développe pas pour rien. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais quand c'est génétique. Oui, génétique. Mais j'opterais plus pour le côté psychogénérationnel. Et il semble que ça aussi, ça se travaille. Ce qui m'amène à dire l'autre chose, étant donné qu'il faut se responsabiliser, ben c'est un petit peu la paresse des gens. Donc, je pense que l'aspect matérialiste, idéologie matérialiste, plus le côté très paresseux de notre société qui ne veut pas travailler sur lui et qui veut simplement faire disparaître son symptôme pour continuer de s'amuser, ben c'est les deux problèmes majeurs qui font que notre société souffre autant. Il suffit de parler avec des physios, des chiros, des médecins pour savoir que les gens ne font pas les changements nécessaires, ils ne se responsabilisent pas. Combien de médecins ont dit à des patients, ben là, vous avez tel problème, il faudrait arrêter de fumer, il faudrait arrêter de consommer de l'alcool et les gens n'arrêtent pas. Des physios qui me confiaient que les gens viennent se faire traiter, se faire masser, ils leur donnent des exercices à faire à la maison et les gens ne les font pas. Alors que 90% de la réussite du traitement, ben c'est les fameux exercices qu'on a à faire quotidiennement pour retrouver la santé. Donc, malheureusement, je pense qu'on a cette paresse-là dans notre société et on n'est pas éveillé à tout cet aspect-là psychosomatique qui est super important. Et je vais vous dire un peu plus loin que pour moi, c'est un suicide spirituel que de traiter un symptôme sans vraiment prendre soin de ce qui est derrière. Ce que j'ai vu aussi au niveau émotionnel, ce qui est intéressant, anxiété, vide intérieur, colère, tristesse, peur, comme je vous disais, souvent ça vient nous parler de quelque chose. Lorsque les gens observent ça en conscience, ce qui va émerger, on va se rendre compte que ce qu'ils ont vécu, par exemple, dans une famille dysfonctionnelle, violente ou non aimante, va avoir laissé des traces profondes qui fait qu'aujourd'hui, tout est vu à travers ce filtre-là et que, ben, il manque un fond de sécurité profond et inconscient, ce qui va faire que la personne va avoir tendance, par exemple, à avoir de l'anxiété. Vide intérieur, la même chose. Tristesse, peur, souvent des vieux souvenirs vont émerger, reliés à des situations spécifiques. Et c'est comme si ce souvenir-là vivait encore en permanence dans la personne, ce qui fait qu'elle ressent une tristesse qui n'a absolument aucun lien avec la situation présente. Donc, qu'est-ce que ces émotions-là viennent vous dire? C'est « Hey! » Viens régler ce que tu n'as pas réglé ou viens régler ce que tu n'as pas pu régler parce que tu étais trop jeune. Donc, être à l'écoute de ces souvenirs-là ou être à l'écoute de ces symptômes-là, simplement entendre ce qu'ils ont à dire, comment ça émerge et aller en prendre soin peut faire une immense différence. Au niveau des patterns relationnels, c'est la même chose. Combien de personnes vont dire « Ah, moi, je suis assez tanné, je rencontre toujours le même genre d'homme » ou « Mes relations finissent toujours de la même façon, je finis toujours par me faire trahir. » Ben, ça aussi, c'est la même chose. Ça nous parle de quelque chose. C'est comme si nos relations étaient symptomatiques. Ils avaient un symptôme dedans. Il faut apprendre à aller écouter qu'est-ce qui est là, se responsabiliser, parce que je vous annonce que ce n'est pas les autres qui vous font du mal, mais c'est vous qui vous laissez faire du mal. Que vous attirez ce type de personne-là, comme un aimant, hein? C'est magnétique, c'est énergétique. On se retrouve toujours à la même place parce qu'on porte quelque chose. Et pour savoir ce que l'on porte, ben, la porte du symptôme, passer par le symptôme, c'est pour moi la meilleure façon de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière et de pouvoir le transformer pour avoir de nouvelles genres de relations, si on veut. Parce que si on se responsabilise, qu'est-ce qui fait qu'on rattire toujours la même chose? C'est qu'émotionnellement, ça vient nous apaiser, ce type de personne-là. Et en même temps, il y a quelque chose qui nous attire dans ça. Dans ce type de relation-là, comme si on le revivait, comme si c'était du connu à quelque part. Et si je veux pousser encore plus loin, autre chose qui a absolument rien à voir avec notre passé ou nos traumas, c'est une expérience que j'ai vécue avec un produit que je consommais. C'est-à-dire que notre corps, notre inconscient et nos émotions, ça forme une trinité. Et lorsque le corps perçoit quelque chose, une toxine, il le sait, même si ça ne se rend pas à notre conscient. Et ça aussi, je l'ai déjà raconté. Il y a un hiver, il y a peut-être 3 ans, j'ai eu des problématiques de colon irritable pendant pratiquement 3 mois. 3 mois à chercher, à me demander, mais comment ça se fait que j'ai de la misère comme ça? Comment ça se fait que j'ai le ventre enflé comme ça? Et là, je jouais avec la nourriture, je coupais des choses, puis j'arrivais pas à trouver parce que il y avait rien de différent dans mon alimentation. Et un matin, alors que je faisais une méditation d'observation consciente, j'ai une grosse image qui est montée à mon esprit d'une canne à café que j'avais à l'époque, de Maxwell House décaféiné. Et mon premier réflexe, c'est mentalement de me dire, ben voyons, ça n'a pas rapport. Pourquoi je pense à ça? Pourquoi je pense à une canne à café? Alors, j'ai observé la canne à café en conscience pour voir comment mon corps réagissait parce que je me suis dit, si ça émerge, c'est pas pour rien. Et là, j'ai eu l'intuition, c'est ça qui te rend malade de l'intestin. Et là, tout de suite, j'ai balayé ça de l'esprit avec mon mental en disant, ben non, du café, j'en bois depuis des années, voyons donc, ça fait aucun sens. Et là, j'ai balayé ça. Et dans l'après-midi, alors que je regardais mon fil d'actualité Facebook, ben, j'ai vu une femme qui faisait une capsule sur le café décaféiné chimique et qui expliquait à quel point c'était toxique pour l'organisme. Et là, j'ai allumé. Parce que moi, je prenais habituellement du café décaféiné à l'eau, le Kirkland, plus précisément, de chez Costco. Et quand je suis allé à ce moment-là, ben, il n'y en avait plus, c'était back-order. Donc, j'ai fait quoi? J'ai pris la canne de décaféinée à côté, qui était Maxwell House, qui, elle, n'était pas décaféinée à l'eau, mais était décaféinée chimique. Alors, j'ai arrêté d'en prendre et à peine 2-3 jours après, j'étais correct, mon intestin était revenu à la normale. Donc, voyez-vous, j'étais en train de m'empoisonner avec un produit et pourtant, mon inconscient l'a perçu et lors d'une méditation, il a fait monter à ma conscience l'image de la canne à café. Ben ça, ça représente vraiment ce que je veux vous expliquer quand je dis un symptôme, c'est un messager. Et si on apprend à écouter le messager convenablement, ben, on va comprendre le message. L'inconscient peut nous fournir toutes les réponses. Par contre, il faut être patient et il faut être persévérant. Parce que oui, ça peut arriver en 2 minutes, mais ça peut prendre aussi des mois. Mais peu importe, des fois, il montre des choses et c'est pas ce qui est relié avec le symptôme. On le travaille, ça nous fait du bien, mais ça enlève pas le symptôme. Mais c'est pas grave, ça améliore toujours quelque chose dans notre vie. Ce n'est jamais perdu. Bien sûr, c'est pas évident. Au départ, moi, je l'ai appris de quelqu'un. Donc, je vous encourage à être accompagné au départ. À être accompagné pour apprendre comment on fait. D'ailleurs, moi, j'avais créé une formation qui s'appelle « Tisser la toile de l'inconscient » pour enseigner aux gens comment on apprend ça. C'est une formation qui se donne en ligne, qu'on peut suivre à notre rythme. Si vous voulez plus d'informations sur moi ou cette formation-là, ben, pascalbrousseau.com, c'est mon site internet. Il y a un bouton pour me rejoindre par courriel. Vous m'écrivez, puis ça va me faire plaisir de vous donner de l'information. Ou même si vous voulez prendre rendez-vous, que vous avez un symptôme que vous aimeriez entendre, explorer, écouter, ben, en haut à droite, un petit bouton, prendre rendez-vous et on cédule ça, puis on se voit. Parce que pour moi, traiter un symptôme comme ça qui est chronique, et là encore là, je vous dis un symptôme chronique, je ne vous parle pas d'un symptôme de base, j'ai le rhume, je vais prendre quelque chose pour mon rhume. Je parle vraiment de quelque chose qui est chronique et qui perdure. Je pense que de juste prendre un médicament ou quelque chose pour geler ce symptôme-là et le faire disparaître, c'est un suicide spirituel. C'est-à-dire, oui, vous allez diminuer la souffrance ou arrêter de souffrir, mais intérieurement, au niveau de votre développement personnel, au niveau des autres choses, ça va rien changer et le corps va s'arranger pour se faire entendre. Donc, il va prendre éventuellement un autre symptôme qui sera peut-être pas physique, mais qui va être émotionnel ou peu importe. C'est pour ça que je suis pas contre. Je pense que les gens ont besoin, par exemple, dans le cas de dépression ou d'anxiété, de prendre une médication. Mais dans ma croyance, si on prend uniquement la médication et qu'on fait absolument aucun travail sur nous, ben, à quelque part, on prend pas nos responsabilités, on fait juste geler le symptôme. Et d'ailleurs, là-dessus, je vous lance un petit défi parce que je cherche à recueillir des informations. Comme moi, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est psychosomatique, comme je l'ai vu dans mon dos, et que j'ai une certaine peur parce que dans ma famille, en fait, dans mes deux côtés de famille, il y a beaucoup d'Alzheimer et de démence. Et j'ai fait des recherches pour essayer de trouver, mais qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui cause ça? Et lorsque j'observe, dans ma famille, dans mes deux côtés de famille, et j'ai commencé à poser beaucoup de questions autour de moi, et tout le monde jusqu'à maintenant m'a dit oui et était d'accord, et ça peut vous paraître fou, mais j'ai remarqué que toutes les personnes qui développent la maladie d'Alzheimer ont une peur du manque et ont tendance, et pas juste pendant qu'ils sont malades, je parle toute leur vie, ils ont fait ça, dans leur jeunesse, ils ont accumulé des objets ou de l'argent, ou les deux, toujours dans l'objectif de se sécuriser, comme s'ils avaient peur de manquer de quelque chose. C'est le genre de personnes qui vont mourir en vivant comme des pauvres, mais qui vont avoir 500 000 dans le compte de banque. C'est le genre de personnes qui vont remplir leur solde de toutes sortes de choses au cas où qu'il arrive de quoi, au cas où d'en avoir de besoin. Donc, observez ça et si ça vous parle, peut-être juste m'écrire et me dire « oui, effectivement, dans ma famille, j'ai telle personne et je remarque que toute sa vie, elle a eu peur du manque. » Donc, je ferme la parenthèse et si vous avez des choses comme ça dans votre famille, ben observez. C'est quoi les points communs que ces personnes-là ont ensemble? Et je vous invite pour vous-même à passer à l'action, à prendre responsabilité de ce qui arrive dans vos vies, de ce qui vous fait souffrir, de comment vous vous sentez, et de réaliser que lorsque vous arrivez à faire disparaître un symptôme en comblant réellement le besoin, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de ce symptôme-là qui disparaît, il y a quelque chose intérieurement qui est encore plus intense, qui est encore plus profond. Je me souviens de cette cliente-là, dont une raideur ou une douleur à l'épaule ou même une limitation à l'épaule avait disparu spontanément, mais était rendue qu'elle se foutait de ça parce que à travers ce symptôme-là, elle avait découvert ce qui minait sa relation avec les hommes depuis toutes ces années-là. Donc pour elle, ça c'était encore plus important. Et je vous invite vraiment à le faire parce que c'est fascinant tout ce qu'on peut trouver. Comme je dis, ça a été pour moi le plus gros tremplin de développement personnel de toute ma vie que d'écouter mes symptômes. Sur ce, ben, je te remercie énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te salue et je te dis à la prochaine pour l'épisode de la semaine prochaine.